Bonjour, auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre français, Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier, qui est paru aux éditions de Minuit en 2020. Laurent Mauvignier, un écrivain français qui compte un des meilleurs de sa génération. Il est né à Tours en 1967. Il a d'abord fait les arts plastiques, dont il a obtenu un diplôme, le diplôme des beaux-arts en 1991. Et puis après, il s'est mis à l'écriture et il a publié son premier roman en 1999. Depuis, il a publié de nombreux autres romans, des textes pour le théâtre aussi. Il a même écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision. Quelques-uns de ses romans: Loin d'eux, en 1999, son premier. Apprendre à finir, seul, des hommes, dans la foule, autour du monde, continuer. Et puis son dernier, Histoire de la nuit. Donc, en beaucoup de romans, donc beaucoup de publications. Ses sujets de prédilection, c'est de nous parler des personnages qu'il appelle les invisibles, les ouvriers. Il parle pour eux, en fait. Les paysans, la petite classe moyenne. Ou alors les gens qui ont subi des traumatismes, un suicide, par exemple. Un suicide, une disparition, un accident. Ou alors un traumatisme collectif. Par exemple, dans des hommes, il nous parle de la guerre d'Algérie. Dans la foule, il nous parle du drame du Hezel. Autour du monde, il nous parle du 11 septembre aux États-Unis. Voilà, il parle de gens qui se sentent exclus, qui en fait ne parviennent pas à vivre leur vie parce que, en fait, disent-ils, ils n'ont aucune chance dans la vie. Alors, revenons sur son dernier roman, donc « Histoire de la nuit ». Le décor, les lieux, c'est un village perdu. Un village qui s'appelle le hameau des trois filles seules, dans la commune des Bassets, avec trois maisons seulement. Une région plate et pluvieuse, avec zéro touriste pour venir se frotter à l'ennui qui se dégage de ses sentiers, de ses rues, de ses murs détrempés. Et sinon, pourquoi auraient-ils tous rêvé un jour ou l'autre d'en foutre le camp ? Donc un village qui s'étiole, c'est un mot qu'il emploie, comme il y en a beaucoup dans la France profonde, ce qu'on appelle la France profonde. Et d'ailleurs, Mauvignier a des mots assez durs pour parler de ces régions crépusculaires, voilà encore un mot qu'il aime employer, où il n'y a que quelques personnes qui s'accrochent. Bergogne père, c'est le père du héros du livre qui s'appelle Patrice Bergogne. Bergogne père avait espéré qu'à eux trois, ses fils seraient plus forts pour agrandir et faire prospérer la ferme. Mais il avait dû comprendre que seul Patrice resterait, les deux plus jeunes ayant vite choisi de le laisser, comme l'un des deux l'avait dit dans sa bouse. Ils avaient tous les deux foutu le camp dès qu'ils avaient été en âge de partir. Et hélas, il n'y avait rien eu d'étonnant à ça. Voilà longtemps que toute la Bassée était vouée à s'étioler, à partir en lambeaux. Un monde, le sien, uniquement destiné à s'amenuiser, à se réduire, s'évanouir, jusqu'à finalement s'effacer totalement du paysage. Ils peuvent appeler ça désertification s'ils veulent, ruminait-il, comme pour dire que c'est un mouvement naturel et qu'on ne pourra ni l'enrayer ni l'endiguer. Mais la vérité, c'est qu'ils veulent juste qu'on crève sans rien dire, qu'on reste la bave aux lèvres, mais le doigt sur la couture du pantalon, bon petit soldat, jusqu'au bout. La Bassée va disparaître et c'est tout. Elle ne sera pas le seul trou dont il ne restera qu'un nom, un fantôme sur une carte IGN. Sauf qu'en plus, la Bassée a un nom tellement banal qu'il y en a quatre ou cinq qui ont le même. Cette Bassée-là n'étant même pas celle du Nord, coincée entre Arras, Béthune et Lille, qui est une vraie ville. et pas un village comme ici. Bref, tout ça va être aspiré, bouffé, digéré et chié par la vie moderne. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Le père Bergogne écumait de rage. Tout allait disparaître. Non seulement les fermes et tous les hameaux avec, mais aussi les zones pavillonnaires des années 60 qui avaient poussé avant de se rabougrir et de se faner sans même avoir eu le temps d'éclore. Avec l'usine de métallurgie qui, après de longues années d'agonie, avait fini comme tout le reste par fermer ses portes, comme avaient aussi fini en bateaux fantômes les HLM qui avaient surgi de terre comme des pustules sur une peau malsaine, au moment où l'on croyait que la Bassée allait s'agrandir avec ses usines flambant neufs aux noms sonnants comme ceux d'un Terminator qui allait en remontrer à la concurrence. Usines dont on ne savait pas encore qu'elles étaient pourries d'amiante et portaient en elles cette mort dégueulasse qui aura finalement tué tous ceux à qui elles avaient promis la belle vie. Voilà une peinture sociale très dure de la France rurale, de son exode rural qu'on ne peut enrayer. Il nous parle des difficultés pour les paysans de vivre et de survivre en fait. Alors qui sont les habitants de ce village déserté? Il y a Patrice, donc le fils de Bergogne père, le fils qui a voulu rester à la ferme. Il a 47 ans. Un homme doux et attentionné, toujours très serviable. Un homme calme, mais rude comme un paysan, qui s'est endetté au-delà du raisonnable pour donner leur part à ses deux frères quand ils ont voulu partir. Parce qu'il a voulu que la ferme reste à un Bergogne comme son père l'avait voulu. Alors il est resté. En plus, c'est un homme qui n'a pas eu beaucoup de chance en amour. Il a déjà vécu deux histoires qui se sont très mal terminées. Il se sent comme un exclu, un homme laissé sur le bord de la route. Alors, lorsqu'il rencontre Marion, c'est comme un appel d'air qui lui redonne vie. Surtout que Marion a très vite accepté de l'épouser et qu'ils ont eu un enfant, une petite fille qui a maintenant 9 ans, Ida, qui vit donc à la ferme aussi. Alors Marion, la femme de Patrice, c'est le pivot du livre. Pourquoi elle est là? On comprend tout de suite qu'elle doit avoir une bonne raison pour avoir accepté de se marier avec Bergogne. Avec Bergogne, c'est le jour et la nuit, je dirais. C'est une jeune femme venue d'ailleurs, très belle, très sexy, très, très lumineuse, beaucoup plus jeune que son mari, enfin beaucoup plus, elle a 7 ans de moins, puisqu'elle va fêter ses 40 ans. Elle a vécu à la ville jusqu'à son mariage, et son passé ne nous est pas révélé tout de suite. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous lire juste quelques lignes où elle parle de son enfance, sans rien vous dévoiler de la suite de l'histoire, mais elle a des mots très durs pour parler de son enfance. Ça vous la situera bien, je pense. Ce vieux silence intime de son enfance, comme lorsque, toute petite, elle préférait fermer les yeux et ne pas entendre les familles d'accueil qui se substituaient à l'absence de sa mère, dès que celle-ci disparaissait au bras d'un mari tout neuf, pour qui elle se refaisait une vie dans laquelle sa fille n'avait pas de place. Renvoyé alors au rang d'inexistant petit fantôme gris, insignifiant, comme une perforation dans la vie de sa mère, ou comme un résidu empaqueté de roses, encombrant et joli déchet dont sa mère ne voulait plus entendre parler. Elle aime beaucoup sortir. Elle sort d'ailleurs tous les samedis, elle va danser avec ses copines, elle fait du karaoké. Elle travaille à la Bassée dans une imprimerie. Dès le début du livre, on sent que le couple ne va pas bien. Il y a eu, il y a encore sans doute de la tendresse. Il y a toujours de l'amour chez Patrice, mais un amour qui n'est pas partagé. Et on sent maintenant comme de l'exaspération. On n'est pas loin de la rupture. On sent que le couple vacille. Je vous lis un passage où Patrice nous parle du soir. Du soir quand il retrouve sa femme dans leur chambre. Parfois, il la trouve plongée dans un livre, le livre posé sur ses cuisses, l'air concentré dans un polar tellement embarqué qu'elle ne le voit pas. Est-ce qu'elle l'entend ? Il ne sait pas. Il est déjà tellement content qu'elle ne soit pas encore endormie. Mais ce soir, lorsqu'il entre dans la chambre, elle dort. Il sait qu'il a tardé à monter. Il a perçu ce calme où la maison elle-même semble s'enfoncer dans l'obscurité et le silence, lentement, lâchant doucement prise, alors que lui n'y parvient pas. Soudain angoissé à l'idée d'un message auquel il doit absolument répondre pour rassurer un créancier, car sans oser se l'avouer, il redoute de recevoir le message d'une banque qui pourrait ne plus lui accorder de délai, le message d'un huissier, une convocation, une mise en demeure. Alors ce soir, il a pris trop de temps, il le sait. Il est monté et il a su tout de suite que femme et enfant dormaient, qu'elles étaient ensemble, même dans une chambre séparée, mais dans la même temporalité, dans le même monde partagé de leur vie à elle, l'excluant, le laissant seul sur le bord de sa route. Cette douleur si souvent recommencée, d'avoir la sensation d'être absent dans son regard à elle, quand toute cette beauté à laquelle il croyait qu'elle lui laissait l'accès, la possibilité de la contempler, de la toucher, le rejeter encore plus violemment dans sa solitude, simplement en cause d'un livre ouvert et qu'il vient de fermer et de poser sur la table de chevet. Il la regarde dormir. Elle porte juste un t-shirt trop grand, gris, dans lequel son corps semble flotter. Et pourtant, ses seins apparaissent plus lourds que lorsqu'ils tiennent dans un soutien-gorge. Il les lorgne sans gêne, sans apparat. Leur forme, les courbes, leur poids. Il aimerait les prendre dans ses mains, les soupeser, les caresser, même si c'est seulement à travers le tissu. Comme il reluque sans gêne non plus le décolleté trop plongeant et la peau dont quelques rides dessinent des lignes qu'il suit. Et le cou, le visage de profil de sa femme, sa beauté qui s'ignore à l'heure où elle se repose, au moment où elle dort, lui laissant à lui seul le privilège non pas de la posséder, mais de la contempler. S'étonnant encore de pouvoir jouir du privilège d'admirer cette femme et de la voir tournoyer autour de lui, vivre, rire et dormir. Et tant pis s'il y a toujours cette blessure qui se réveille à cette heure-ci, dont il arrive à tromper la douleur par l'acharnement au travail, par tous les soucis qui l'accablent et dans lesquels il veut bien se noyer pour oublier que sa femme, avec son souffle, sa bouche, ses lèvres, la forme de son nez, les rides au coin des yeux et cette odeur qui n'est qu'à elle et dont la chambre, les draps, la maison elle-même semblent être comme une émanation, ne le laisse plus souvent la toucher, lui qui crève de la honte que ça lui donne de la désirer, sachant que, une fois par mois peut-être, elle laisse son corps trapu, de gras et de muscles lourds, roses et pâles, livides comme celui d'un cadavre, d'une peau rêche, odorante, aigre. Son corps qu'il regarde avec dégoût, avec honte, se satisfaire en elle, le laissant s'ébattre comme il voit qu'elle le fait, en fermant les yeux et en retenant son souffle, il le sait, en attendant qu'il accomplisse sa besogne le plus vite possible, comme s'il fallait bien lui concéder au moins ça. Ils ont donc une petite fille, Ida, qui adore ses parents et sa mère en particulier. Au début, on la retrouve toute excitée. Elle revient de l'école parce que ce soir, c'est l'anniversaire de sa maman, Marion. Elle fête ses 40 ans et en cachette, elle et son père ont décidé de préparer une grande fête, de lui en faire la surprise. Ida est une petite fille très mûre pour son âge, qui écoute. Elle voit ce qui se passe. Et Mauvignier a su lui donner un rôle bien particulier. Le quatrième personnage du village habite dans la deuxième maison, la troisième étant inhabitée et mise en vente. Ce quatrième personnage, c'est Christine, que Ida aime beaucoup, donc, qu'elle appelle Tati, Tati Christine. Christine est artiste peintre. Elle a quitté la vie parisienne et les galeries de peinture et toute la frénésie, l'hystérie, l'argent et les fêtes qu'on fantasmait autour de sa vie. Pourquoi elle a abandonné cette vie facile ? Pour venir se mettre à travailler vraiment, dit-elle, se colter avec son art dans un endroit où on lui foutait la paix. Elle est devenue très amie avec Bergogne, avec Patrice, mais pas avec Marion, qu'elle n'aime pas. La petite Ida, là, qu'il adore donc, aime bien venir chez sa tati en fin d'après-midi à la sortie de l'école pour goûter et faire ses devoirs. Et aujourd'hui, elle vient chez Christine pour faire des dessins qu'elle veut offrir à sa maman pour son anniversaire. Elle pense que Christine va l'aider, comme c'est une artiste peintre. Voilà les quatre personnages essentiels. Très vite, on connaît les personnages, donc, parce que Mauvignier leur donne la parole les uns après les autres. Et on se rend compte qu'il y a chez eux des notes discordantes. Ce sont des personnages qui ne sont pas lisses. Il y a des failles en eux. D'ailleurs, on verra que c'est pareil pour les autres personnages qui vont arriver et que tout de suite, on met dans la catégorie des méchants. Il y a donc des contradictions chez les personnages, mais ce qui est, je dirais, tout à fait normal chez tout être humain, une part de lumière, une part d'ombre. Par exemple, Marion, c'est une femme libre, une battante, mais on apprendra que c'est une survivante d'un passé terrible. Alors, il y a un détail d'ailleurs qui nous met mal à l'aise, le tatouage qu'elle a sur l'épaule. Des fils de fer barbelés. Patrice, lui aussi, a en lui des contradictions. On apprend que si Marion se refuse à lui, il compense en allant voir des prostituées. Mais la façon dont il se comporte avec elle, avec les prostituées, montre que lui, qui en fait tous les jours chez lui, est un homme dominé par sa femme essentiellement. Il aime devenir avec des êtres plus faibles que lui. Il aime devenir un dominant. Chez Christine, c'est pareil. C'est une femme forte, libre, qui a été adulée dans son passé avec un mari très riche. C'était une artiste qui avait un public très fidèle. Et pourtant, elle perd de son assurance devant une petite fille. Ida est venue chez elle pour faire les dessins qu'elle veut offrir à sa maman. Et elle pose avec insistance une question à Christine. « Tu vas lui faire un cadeau à maman ?» Et elle met Christine dans l'embarras parce que Christine n'a rien prévu étant donné qu'elle n'apprécie pas beaucoup Marion. Alors Ida revient toujours à la charge. « Tu vas lui faire un cadeau à ma maman ?» Au moment où elle va lui poser une nouvelle fois sa question, Christine se met à bégayer. Se noyant dans des « inconfortables pour elles deux, des hésitations qui ne lui ressemblent pas. Elle n'a pas l'habitude d'avoir une parole hésitante, au contraire. Et donc, se reprenant pour en finir avec cet embarras, elle se lance enfin. « Oui, un cadeau, bien sûr, il faudrait, je... » Et puis s'arrêtant en plein vol. comme surprise elle-même de ne pas avoir de réponse à donner. Elle hoche la tête, hausse les épaules en signe d'impuissance ou d'abandon. « Tu as gagné, très bien, c'est vrai. Je n'ai pas de cadeau. » Dès le début du livre, le malaise s'installe. La première scène, c'est Christine qui va à la gendarmerie pour signaler que depuis quelque temps, elle reçoit des lettres anonymes. Donc, pour nous lecteurs, une forme d'angoisse naît. Mais à peine, je dirais, on est au bord de l'angoisse, on n'a pas encore plongé. Et puis Christine, dans la même journée, l'après-midi, reçoit la visite d'un homme. On ne sait pas trop pourquoi il est venu. Peut-être veut-il acheter la maison qui est vide et qui est en vente. Ça reste très évasif. Et en fin de journée, quelques heures après, ce sont trois hommes qui font irruption. Et là, on va rentrer petit à petit dans le drame. La tension s'installe. N'oublions pas, on est dans un thriller. Premier drame, le chien de Christine est tué de plusieurs coups de couteau par un des trois. Voilà, plus le temps passe et plus la journée devient irrespirable, je dirais. Ce roman a 635 pages et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. C'est un huis clos. Il pourrait presque être résumé en quelques lignes. Mais tout l'intérêt du livre vient de l'écriture de l'auteur. L'intime de chaque personnage nous est révélé dans un rythme très lent. On passe d'un personnage à un autre pour que chacun puisse nous livrer ses pensées, ses émotions, ses habitudes, son passé sur lequel on s'attarde pas mal, ses souffrances, ses dérives, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Mauvigné s'arrête sur chaque détail, chaque mouvement, ce qui lui permet de fouiller à l'extrême la psychologie des personnages et pour rapprocher ainsi de leur vérité. Et c'est la fiction qui permet ça. Mauvigné, à qui l'on demandait de donner sa définition de la fiction, a répondu « La fiction donne la vision de ce qui n'est pas encore advenu. » C'est tellement vrai. Il y a des personnes qui n'aiment pas le roman parce que, disent-ils, ce n'est pas vrai. Mais c'est tout le contraire. C'est la fiction qui permet d'approcher la vérité. Et son écriture lui permet justement de fouiller les âmes. Une écriture magistrale avec de longues phrases qui peuvent s'étaler sur 2-3 pages. C'est ce qui lui permet justement de faire monter la menace. C'est ce qui permet à la tension, justement la tension, de se faire de plus en plus aiguë jusqu'au moment où elle va exploser au bout d'un certain temps. Voilà, je ne vous en dis pas plus sur le déroulement de l'action. Je voudrais finir en vous lisant un passage. Je vous ai dit tout à l'heure que les personnages ne sont pas lisses. Il y a chez eux des contradictions. Et ce qu'on découvre peu à peu, c'est qu'en fait, les personnes agressées ressemblent par certains côtés aux personnes qui sont les agresseurs. Et inversement. Les agresseurs ne sont pas toujours les méchants. On découvre peu à peu leur passé. Et c'est parfois peu réjouissant aussi. Les trois personnages qui sont arrivés en fin d'après-midi, ce sont trois frères, Denis, l'aîné, Christophe, et le dernier, qu'on appelle le bègue, parce qu'il est atteint de bégaiement. Et il a eu une enfance très difficile dans des maisons d'internement. Christophe se moque un petit peu de lui, il rigole. Denis se tait, se ferme. Ça ne le fait pas rire comme ça amuse Christophe. C'est un sujet trop récurrent entre eux, l'histoire du petit frère, ce jour où leur vie de famille avait basculé et où ils avaient compris que ces trucs bizarres n'étaient pas seulement des trucs bizarres. Et que ce serait à Denis de s'en occuper parce qu'il était l'aîné et qu'on l'avait toujours affublé d'une sorte d'obligation. Comme dans chaque fratrie, les rôles sont distribués dès le départ, sans qu'on sache ni comment ni par qui. Mais avec une telle évidence que tout le monde s'acquitte de ce qui lui collera au basque toute sa vie. Comme ça avait été le cas pour Denis, qui avait dû suppléer l'incurie des parents et s'occuper de tout, parce que personne ne l'aurait fait, et certainement pas Christophe. Au moins pendant les deux premières années, où c'était donc Denis qui avait supporté les parents hagards, ayant fui la réalité devant leur poste de télé, eux qui avaient tellement craint l'hôpital, comme si d'y foutre les pieds un jour allait les condamner à ne plus jamais en sortir. Pendant que Christophe haussait les épaules, parce que Denis lui répétait « Oui, le bégaiement, c'est rien. Être bègue, c'est rien. » Faut voir ce qu'ils disent de lui à l'hôpital. Putain, Christophe, pourquoi tu veux pas entendre? Merde! Et depuis que le diagnostic leur était tombé dessus, Christophe n'avait pas su vivre la maladie de son frère autrement que par une incompréhension rageuse. Comme si on leur avait dit qu'ils étaient eux-mêmes touchés dans leur chair, dans leur corps, qu'une partie d'eux-mêmes était malade et folle à lier. Ce qui l'avait mis dans une colère si grande qu'il avait été longtemps incapable d'entendre le mot que Denis lui avait répété les yeux dans les yeux, implacable, articulant chaque syllabe, comme si cet abruti de Christophe allait enfin l'entendre. Bègue est atteint d'une forme aiguë de... Et le mot qu'il refusait d'entendre se transformait entre eux pour devenir leur maladie commune, les gangrénant l'un et l'autre. Christophe, qui avait laissé la colère lui élever un paravent pour ne pas la voir, et qui avait laissé celle-ci défoncer tout sur son passage, la déversant sur tout ce qui bougeait, avant que, fatigué de sa propre furie, il s'enferme dans un mutisme qui l'aurait empêché d'aller voir Bègue pendant les 4 ans de son internement, s'il n'avait pas été contraint de se rendre à l'hôpital et de prendre le relais de Denis. « Mais bon, on va pas passer la soirée à parler de Bègue », a fini par lâcher Christophe, laissant dans le sillage de ce qu'il n'a pas dit un poids étrange. Comme était étrange, pour qui l'aurait connu entre le moment où Bègue était entré à l'hôpital et aujourd'hui, ce renversement qui s'était opéré. Christophe passant du taiseux colérique, obstiné dans le déni de la maladie de son frère, à ce bavard sarcastique qui s'amuse de tout, et ramène tout à la même maladie. Mais allez, ça suffit avec ça. C'était donc Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier, publié aux éditions de Minuit en 2020. Merci pour votre écoute et à bientôt.